Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans le Marque-Page, l'émission littéraire de Radio Bartas. Pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter une lecture d'une nouvelle de Annie Saumont par Aline, c'est Une voiture blanche.
Une voiture blanche. J'avais souvent 20 dictées. Lia était à côté de moi. Et puis elle est partie. L'instit s'étonnait. Yvan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'atteins même plus la moyenne? J'ai baissé la tête et bafouillé que c'était la fatigue. J'avais mal au cœur. Ne pouvais réfléchir. La maîtresse a dit « C'est à cause de Julia ?» Non, je n'avouerai pas. Mais j'ai grogné. Bah oui, quoi, ça m'a... L'émotion me nouait la gorge. Je m'en servais. Elle n'a pas insisté. Hier, j'ai eu 30 ans. Je n'ai rien oublié. À mon âge, on a l'indulgence pour le môme qu'on a été. Je suis professeur de maths. J'ai toujours aimé les mathématiques. Autrefois, je détestais l'orthographe. Pourtant, j'avais des 100 fautes en dictée. Ou presque. Parce que je copiais. Je copiais sur Lia. Elle s'appelait Julia, en vrai. Nous, on l'appelait Lia, pas l'instit. Lia était une bonne élève. Tout ce qui m'embarrassait, elle le savait. Choux, genoux, bijoux, cailloux. Les pluriels irréguliers. Et l'accord du participe passé employé avec le verbe avoir, suivant l'endroit où se trouve le complément d'objet direct. Et si l'accent sur les mots qui ont besoin d'un accent doit être grave, aigu ou circonflexe? Même des détails. Importants, disait-elle. Comme ne jamais aller à la ligne après une apostrophe. Je comprenais les règles. Quand j'entendais le texte que j'avais à l'écrire, j'étais perdue. Il ne me restait qu'un recours, la fraude. Lia n'ignorait pas mon manège. Elle ne tentait même pas de l'arrêter. Elle n'avançait pas le coude, protégeant son cahier. Elle ne mettait pas entre nous une frontière, sa trousse ou un livre de bibliothèque. Ça lui était bien égal que je récolte des points immérités. Les notes, elle s'en fichait. Nous étions des champions de l'orthographe. Je lui laissais la première place. Je faisais exprès parfois de ne pas corriger dans ma page une faute que la maîtresse soulignait, déclarant « Tu te débrouilles parfaitement avec tes conjugaisons, tu n'auras que 16 à cause d'une faiblesse dans ton vocabulaire. » J'avais vu sur le cahier de Lia que rhinocéros prenait un H entre le R et le I, ou que balise ne doublait pas le L. Mais il fallait tricher prudemment, agir avec modération. Je me sentais redevable envers Lia. Je voulais le lui témoigner. Elle se tenait à l'écart des groupes. À la récré, je m'efforçais de l'entraîner dans nos jeux de garçons. Elle évitait la compagnie des filles. « Qui piaillait », disait-elle. Les gars n'avaient pas de temps pour les parlottes. À peine dehors, une quinzaine d'habitués se transformaient en équipe de rugby. On manquait de ballons ovales, on jouait au rugby avec un ballon rond. Je proposais à Lia le rôle de trois quarts centre. Elle trouvait le jeu trop brutal. Je suggérais « Tu peux aussi être l'arbitre ?» Elle refusait, s'asseyait sur le banc, rêvassait. Je m'attribuais un carton rouge et sautillais à côté d'elle. Nous cherchions quoi nous dire et la conversation juste engagée, des considérations sur le gras de la viande servie au déjeuner, un copain me tirait par le bras pour que je l'aide en demi-finale à écraser l'adversaire. Ou bien c'était le sifflet d'un surveillant qui commandait le retour dans les classes. Je ne trichais pas en calcul. Après la cantine, cette fois-là, elle feuilletait l'autojournal. Lia m'avait dit que son cousin travaillait comme mécanicien dans un garage. Pour Pâques, il était venu voir la famille. Il avait oublié dans la chambre d'amis des revues et des magazines. Elle s'appuyait sur le muret qui séparait la cour du collège de celle du lycée où nous irions bientôt. elle relevait le nom des voitures présentées au salon de l'auto. Elle me disait « À la télé, j'ai vu une Porsche. Ça me plaît. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais ? Une Jaguar ? Un coupé cabriolet ?» Je n'étais pas très intéressée. J'aurais aimé gagner un scooter, le gros lot des machines à sous qui trônaient dans une baraque foraine de la ville voisine, et que personne, bien sûr, n'a jamais emporté. Il aurait fallu amasser un tas de jetons, au moins 5 000. Je n'ai obtenu qu'un ours palichon, un sucrier en verre rose, un paquet de bonbons acidulés. Le scooter, c'était de l'intox, encourageant le solide acharnement à recueillir la multitude des jetons dans la coupelle. Avec 50 000 jetons, 50 fois une plaquette de 1 000, on gagnait une auto. Le rêve de Liane n'allait pas si loin. Il lui suffisait de savoir comment nommer les voitures qui passaient sur la route, de les admirer. Des voitures, il n'y en avait guère dans les dictées. Une fois pourtant, on a dû écrire que le docteur emmenait le malade à l'hôpital allongé sur la banquette de sa Simca. La maîtresse a dit « Ce n'est pas un mot du dictionnaire, je vous le mets au tableau. » Lia n'a pas levé la tête. Elle a murmuré « Chacun sait écrire ça. » Mais s'agirait-il de Land Rover, de Volkswagen, ce serait plus difficile. J'avais toujours cru que les filles s'intéressaient aux bébés ou tricotaient des écharpes à rayures. Assise auprès de moi, sous les marronniers de la cour, elle me disait « Joue au ballon si tu t'ennuies. » Elle confirmait qu'elle rendrait les catalogues à son cousin lors de sa prochaine visite. Elle devait choisir sans attendre. Choisir quoi ? Comment se prononcer déjà pour une de ces caisses ? D'autres modèles seraient assemblés plus tard dans les usines. 10 ans, 15 ans s'écouleraient avant qu'on puisse, elle tout comme moi, en envisager l'achat. Moi d'ailleurs, je ne rêvais que d'un scooter. D'occasion. Mes parents n'étaient pas riches. Ils m'avaient appris très tôt à limiter mes désirs. Opel Astra, Citroën BX, Austin Mini, Ford Escort, Honda Civic, Fiat Panda, Peugeot 206, elle tournait les pages. Tiens, Mitsubishi, ça s'écrit comme ça ? Lia était jolie. Elle faisait de moi ce qu'elle voulait. Pas seulement parce qu'elle m'assurait d'excellentes notes en orthographe. On bavardait tranquille sur le trajet du retour. Elle habitait près du parc, une maison basse entourée d'un jardin. Et moi dans un grand bâtiment où logeaient plusieurs familles avec des enfants qui fréquentaient notre école. Ils rentraient chez eux en bande. Ils nous appelaient les amoureux. Ils avaient essayé de prêter l'oreille à nos discours, mais s'étaient lassés de nous entendre admirer les carrosseries, décider de l'avantage des freins à disque sur les freins à tambour, vanter les nouvelles positions du levier de changement de vitesse, parler de réglages des amortisseurs. Leur père allait au travail à bicyclette. Les parents de Lia avaient pour les vacances une 4L, assez minable. Les miens, une de chevaux pourris. À gauche du carrefour, s'est ouvert un parking. Longtemps, il est resté presque vide. On y voyait quelquefois la camionnette du boucher, l'R5 de la poste, lorsque le facteur montait le sentier qui conduisait au hameau isolé. Une ou deux voitures d'inconnus qui pêchaient dans la rivière. Lia comptait bien que le parking finirait par se remplir de véhicules de toutes marques. J'ai eu la fièvre. Pendant 2 semaines, j'ai manqué l'école. Un mauvais coup de froid. Lia fermement a refusé que Bernard le Grand Dadais, ou Quentin le Petit Futé, ou Serge, qui courait si vite, profitent de mon absence pour s'installer auprès d'elle. Lia m'a dit qu'elle s'était fâchée. « Maîtresse, ces garçons veulent prendre la place d'Yvan. » Ça ferait comme s'il était mort de la grippe. La maîtresse a protesté. On ne meurt pas d'un gros rhume. Lorsque j'ai repris les cours, Lia m'a accueilli avec joie. Il y a eu la dictée quotidienne. J'ai copié. À 4 heures, Lia m'a confié. Ce parking en haut de la côte avant l'église. Maintenant, il est souvent complet. J'y passe tous les jours. Je regarde, je m'informe. Je connais les noms de chaque bagnole et leurs caractéristiques. Tout à l'heure, on s'y arrêtera. J'ai dit, écoute, demain j'irai avec toi, mais pas ce soir. Déjà que ma mère voulait que j'attende de ne plus tousser pour revenir en classe, je rentre tout droit. J'ai quitté Lia comme on arrivait au carrefour. Elle avait sur le dos son sac bourré de livres. Elle l'a ôté pour être plus à l'aise. On a retrouvé le sac près de la barrière du parking. La vie du village a été bouleversée. La brigade criminelle s'est mise en chasse. Ils ont interrogé, enquêté. J'ai dit que j'avais laissé Lia traîner seule au parking après l'école à cause du froid. Le vent était glacé. Quelqu'un a parlé d'une fillette qui montait dans une voiture blanche. Des barrages ont été établis. Voilà 20 ans que je la cherche. Sa mère a donné des photos qui ont été agrandies en affiches. Ses parents ont vainement espéré son retour. Il y a dans le dossier de la gendarmerie, sur un papier jauni, une demande de rançon que le père a payée contre l'avis de la police. Le cousin, des années plus tard, m'a parlé de la famille. Les parents ne possédaient pas la somme exigée. Ils ont emprunté à la banque. Puis ils ont dû vendre leurs biens, leur maison et leur voiture aussi. Ils sont partis je ne sais où. Sur le message, on peut lire « Papa, maman, faut déposer. » L'écriture est hésitante. Lettres mal formées, mots tout de travers. Si Lia l'avait rédigé, elle n'aurait pas fait en quelques lignes, même dans la pire des terreurs, une dizaine de fautes d'orthographe. C'était une nouvelle d'Annie Saumon, de « Encore une belle journée ».
Tout de suite, on s'écoute « Moonlight Drive » des Doors. Et ensuite, vous pourrez écouter Marie-Hélène vous parler d'un livre de Olivier Rey intitulé « Une question de taille ».
Nothing left, open and no time. Bonjour à toutes et à tous, enchantée de vous retrouver pour une nouvelle chronique de Marc Page. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage, récent, paru en 2014 aux éditions Stock. Et cet ouvrage, il est particulièrement intéressant parce qu'il aborde un sujet qui reste le parent pauvre de la réflexion sociale et politique, à savoir la question de la taille. C'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage, « Une question de taille ». Le problème posé dépasse d'ailleurs largement cette question de taille. Il va nous parler de proportions, de mesures, de seuils. Vous allez voir tout ça, on va y revenir longuement. Avant ça, une petite présentation de l'auteur. Alors, Olivier Rey, il est chercheur au CNRS. Il est mathématicien et philosophe. Donc, il a enseigné les mathématiques à l'École Polytechnique. Il enseigne aujourd'hui à la Sorbonne. Mais ne prenez pas peur avec tous ces titres, parce que c'est quelqu'un qui écrit de façon très claire et limpide. Et ses propos n'ont rien de pédant. C'est vraiment très facile à lire. Alors, il est l'auteur de plusieurs essais. Alors, il y en a un essai que j'ai lu, le seul autre que j'ai lu de lui, qui s'appelle « Une folle solitude ». Le fantasme de l'homme autoconstruit, c'est un ouvrage remarquable. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Mais au-delà des essais, il a aussi écrit des romans. Alors ces romans, il y a « Le bleu de sang » et « Après la chute ». Alors je ne les ai pas lus, je ne peux pas vous en parler plus, mais je crois que je vais rattraper mon retard, parce que ça a l'air intéressant. Alors revenons à cet ouvrage, donc « Une question de taille ». Alors il commence l'ouvrage par un chapitre qui s'appelle « La courte histoire du quartier Pruitt-Igoe ». Alors, je ne connais pas la prononciation, je ne sais pas comment ça se prononce, ce n'est pas grave. C'est un quartier de la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, donc aux États-Unis. Alors, ce quartier, il a été achevé de construire en 1955 et totalement rasé entre 72 et 76, soit une durée de vie de moins de 20 ans. Et ce programme, il a été pensé selon tous les préceptes du mouvement moderniste qui a valu à son architecte Yamazaki une grande réputation et de nombreuses commandes, dont celle du fameux World Trade Center. C'est lui qui avait construit les fameuses tours jumelles. Alors voilà, il nous parle donc de ce quartier, donc 20 ans de vie, et donc le décor est planté. Parce que de quoi va nous parler Olivier Rey dans cet ouvrage ? Il va nous parler de la mesure. Car cet exemple, qu'il donne donc en tout début d'ouvrage, est bien un exemple de démesure. Alors, démesure dans la taille, donc le gigantisme de ce type d'ensemble, c'était 33 barres de 11 étages, 2870 appartements, fourmilières. Mais aussi démesure dans l'utilisation des moyens techniques et perte totale de la proportionnalité entre les moyens utilisés et la durée de vie de cette réalisation. Alors je vais vous lire un tout petit extrait de cette donc tout début, c'est à la page 9 de l'ouvrage, pour vous dépeindre un petit peu de quoi il nous parle. Un certain esprit moderne triomphe dans la substitution au monde naturel d'un espace indifférencié où rien ne fait obstacle à la pensée, et plus spécialement à la pensée géométrique. Rilke, il y a presque un siècle, en avait fait le constat. Où jadis était une maison stable, se présente une production de l'imagination, mal fichue, relevant de la pensée seule, comme si elle se dressait encore tout entière dans le cerveau. Cette soumission de la nature à la géométrie, et à une géométrie rudimentaire, passe par des moyens techniques, aptes à être déployés de la même manière sur n'importe quel terrain. L'homogénéité de l'espace géométrique euclidien s'objective par l'intermédiaire d'engins d'arasement propres à rendre tout lieu équivalent à un autre. Le mot bulldozer, tout le monde connaît le bulldozer, le mot bulldozer est dérivé de bulldoze, littéralement dose pour un taureau. Terme plus ou moins argotique qui aurait servi au XIXe siècle en Amérique à désigner une punition par le fouet particulièrement sévère infligée à un esclave. Puis, au lendemain de la guerre de sécession, les intimidations, menaces, violences dont furent victimes les Noirs dans certains États du Sud. les bulldozers étaient les hommes qui exerçaient de telles pressions et violences. Cette étymologie sinistre vient rappeler à nos sensibilités émoussées par l'habitude à quel point les engins de terrassement modernes sont agressifs et brutaux envers la terre qu'ils nivellent et uniformisent. Les villes anciennes étaient bâties selon la configuration des lieux, avec les matériaux locaux, et organisées autour d'un centre. Leurs extensions récentes se ressemblent toutes et sont sans polarité. Elles pourraient s'étendre plus ou moins identiques à elles-mêmes, comme des flaques de sauce jusqu'à l'infini. On apprend à se déplacer dans ces espaces urbanalisés, non plus en fonction de ce que l'on voit, mais des instructions du Global Positioning System, GPS, qui nous situe sur une carte en fonction de données fournies par satellite. Conçu pour les déserts, l'instrument aujourd'hui est utilisé dans les villes. Comme le constatait déjà le Zarathoustra de Nietzsche, le désert croît. Voilà un petit peu l'introduction de cet ouvrage qui va donc nous parler de cette question de taille. Alors, il va pour ça s'appuyer, Olivier Rey, sur deux auteurs, essentiellement, même s'il nous parle aussi de beaucoup d'autres, mais il va s'appuyer sur les thèses de deux auteurs, Ivan Illich et Léopold Kohr, qui ont tous les deux travaillé autour de cette question donc, de la taille de la proportionnalité dans les années 60-70, sans être toutefois très entendus. Alors, je veux quand même vous dire un mot de ces deux auteurs, parce que c'est très important pour l'ouvrage dont il est question là. Alors, Ivan Illich, 1926-2002, il est quand même relativement connu en France. Il est recensé, on va dire, parmi les penseurs de l'écologie politique. Certains de ses ouvrages, parus dans les années 60-70, ont connu un certain succès. La convivialité, une société sans école, Némésis médicale. Mais Ivan Illich n'a pas toujours été très bien compris, il a été beaucoup récupéré, et finalement il a été totalement oublié à partir des années 80. Et pourtant, c'est un des premiers à avoir soulevé cette question de taille, à travers notamment trois exemples bien connus, les transports, le système scolaire et le système médical. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Ivan Illich ? Il nous dit « Plus le niveau de la technique est élevé, plus les avantages que peuvent apporter des progrès nouveaux diminuent par rapport aux inconvénients jusqu'au moment où les inconvénients dominent. Ou encore, pour tout type de technique, d'activité ou d'organisation, il existe un seuil au-delà duquel le développement devient contre-productif et nuit à la situation qu'il était censé améliorer. Pour cela, il donnait des exemples, par exemple, de la voiture et des embouteillages. Ça, c'est bien connu, mais il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre. Alors, juste pour terminer sur Ivan Illich, parce que c'est quand même intéressant, dans les années 70, bon, il s'est trouvé d'emblée et unanimement rejeté par la droite pragmatique, la droite gestionnaire. Il a également été par la droite intellectuelle, qui ne voyait en lui qu'un contestataire parmi d'autres. Et donc ses lecteurs sont recrutés essentiellement à gauche ou à l'extrême gauche. Mais dès le début des années 80, la plupart d'entre eux se sont détournés de lui parce qu'en fait sa préférence pour une autonomie authentique des personnes par rapport à l'assujettissement permanent à l'état-providence plaisait pas du tout aux gens de gauche. Et puis sa pensée s'avérait en contradiction avec plusieurs dogmes de la gauche moderne. Non seulement Illich ne faisait pas des tenants du système capitaliste des conservateurs, mais il reconnaissait dans l'économie capitaliste la plus grande machine à laminer le passé et la tradition qui n'ait jamais existé. Et en cela, il était d'accord, ou Pasolini plus exactement, qui était son contemporain, était d'accord avec lui. Je voulais vous lire quelques petites lignes de Pasolini à ce propos. Cette révolution capitaliste, du point de vue anthropologique, c'est-à-dire quant à la fondation d'une nouvelle culture, exige des hommes dépourvus de liens avec le passé. Elle exige que ces hommes vivent, du point de vue de la qualité de la vie, du comportement et des valeurs, dans un état, pour ainsi dire, d'impondérabilité. Ce qui leur permet d'élire comme le seul acte existentiel possible la consommation et la satisfaction de ces exigences hédonistes. Voilà ce que nous disait Pasolini en accord avec Ivan Illich. Alors bon, il faudrait plusieurs émissions uniquement pour parler de l'œuvre d'Ivan Illich, que je vous conseille vraiment fortement. Mais c'est bien sur cette réflexion développée donc en son temps par Illich qu'Olivier Rey va construire son argumentaire. Et il va s'appuyer aussi sur l'argumentaire d'un autre auteur, alors beaucoup moins connu, qui s'appelle Léopold Kohr. Léopold Kohr, 1909-1984. Alors, il est moins connu, tout simplement, parce qu'il n'a jamais été traduit en français. Et je voudrais vous reprendre, vous expliquer un petit peu la thèse de Kohr dans un de ses ouvrages, donc écrit en 1957. Je vais essayer de vous le lire avec l'accent, avec mon fabuleux accent anglais. The Breakdown of Nations. Donc, voilà, la décroissance des nations. Les petites nations, les petites économies sont les plus paisibles, les plus prospères et les plus créatives. Il pensait que les problèmes sociaux n'étaient pas engendrés par telle ou telle forme d'organisation économique et sociale, mais par sa taille. Socialisme, anarchisme, capitalisme, démocratie, monarchie, tout cela pouvait fonctionner à une échelle humaine. Une échelle où les gens peuvent avoir une influence sur leur système, sur les systèmes qui gouvernent leur vie. Mais à l'échelle des États modernes, toutes les organisations deviennent tyranniques. Car le problème, c'est la démesure. Le gigantisme peut seulement mener à des problèmes d'une proportion ingérable. Il faut encore plus de pouvoir pour gérer le pouvoir en question et n'a qu'une fin possible, l'effondrement. Voilà, alors c'est vrai que Olivier Rey nous dit bien que nous connaissons aujourd'hui cette crise du gigantisme et nous cherchons à y remédier par des fausses solutions. Des unions fiscales, une gouvernance mondiale, plus de croissance. Alors que la solution aux problèmes mondiaux réside, selon donc Léopold Kohr, contrairement à ce que laisse croire une période où domine le gigantisme et la technologie, non pas dans davantage d'unité, mais davantage de diversification. Des petites communautés sont plus souples, mieux à même de supporter les orages économiques et moins aptes à mener de grandes guerres meurtrières. Encore faut-il que ces communautés soient de taille et de puissance équivalents pour empêcher l'hégémonie de l'une d'entre elles. Voilà ce que pensait Léopold Kohr. Et donc c'est sur la base de ces deux auteurs, des thèses de ces deux auteurs, qu'Olivier Rey construit son ouvrage. Donc c'est un ouvrage extrêmement riche, qui serait vraiment vain de vouloir résumer. Alors pour en parler un peu plus en avant, je vais m'appuyer sur une interview de l'auteur qui a été réalisée pour le journal La Décroissance, le dernier, de novembre 2014, par Cédric Biagini. Et je vais vous lire quelques passages donc d'Olivier Rey dans cette interview, et je pense qu'il exprime très bien ce qu'il a voulu dire dans ce livre. Le mot « mesure » a deux sens en français, une ambivalence qui se retrouve dans de nombreuses langues. D'une part, il désigne l'évaluation d'une quantité avec un instrument de mesure. D'autre part, il désigne ce qui a trait à la juste mesure. Ces deux sens ne sont pas complètement détachés l'un de l'autre, puisque la juste mesure suppose une modération dans l'ordre des quantités. Mais évidemment, il ne suffit pas d'évaluer des quantités pour garder la mesure. Depuis plusieurs siècles en Occident, on s'est livré frénétiquement à la mesure au premier sens du terme. On mesure absolument tout aujourd'hui, numériquement. Et en même temps, la mesure au sens de juste mesure a complètement été mise à l'écart. Il nous dit également, passé une certaine limite, le développement d'une technique exige des investissements si massifs que ceux-ci ne peuvent être rentabilisés que sur des marchés de plus en plus vastes, ce qui nécessite d'immenses sociétés homogénéisées par la consommation du même type de produit. Mais ces sociétés trop vastes broient la personne dont le marché prétend satisfaire besoins et désirs. Nos facultés naturelles sont les mêmes que celles dont les hommes disposaient au Paléolithique. Les groupes humains comptaient alors quelques dizaines, centaines, milliers de personnes. C'est dans ce type d'environnement que nous sommes naturellement à l'aise. Au sein des sociétés traditionnelles, la plupart des personnes croisées au cours d'une journée avaient un visage connu, sur lequel on pouvait mettre un nom. L'inconnu était l'exception. Ce n'est que très récemment dans l'histoire que, pour de plus en plus d'entre nous, le rapport s'est inversé. L'inconnu devient la règle, le connu l'exception. Il en résulte que la grande ville, en même temps qu'elle ouvre la personne à la diversité humaine, en même temps la ferme à cette même diversité, car devant cette avalanche d'inconnus, nous avons tendance à nous réfugier dans des sous-mondes très balisés. On retrouve ici la contre-productivité. Trop de stimulation finit, au lieu de nous garder en éveil, par émousser nos facultés d'attention. Immergés dans des sociétés surdimensionnées par rapport à nos facultés, en instance permanente d'être débordés par la multitude des sollicitations qui nous sont destinées, nous ne préservons un certain équilibre qu'en nous blindant par rapport au monde environnant. Et ce blindage a des conséquences sur notre psychisme. Ce qui rend nos vies fatigantes, c'est que nous sommes sans cesse obligés, inconsciemment, d'adopter un comportement de défense par rapport à un monde démesuré pour ne revenir à un comportement vraiment humain que lorsque nous nous retrouvons dans un environnement plus restreint, plus familier. Beaucoup de pathologies modernes sont ancrées dans cette difficulté. La nécessité de sans cesse adapter son comportement à un environnement qui, sous ses airs séduisants et racoleurs, nous est finalement hostile, parce que réclamant de nous un mode de vie et des façons de se comporter trop éloignées de nos facultés naturelles. Un peu plus loin, Olivier Ray continue. Avant de s'interroger sur les meilleures manières d'organiser quelque entité que ce soit, la question préalable consiste à déterminer la taille qui convient à l'entité concernée afin qu'elle remplisse le mieux possible son rôle. Pour Aristote, la première question concernant la cité était « combien de citoyens ?» Seulement ensuite, on pouvait réfléchir au bon gouvernement. Si le nombre de citoyens augmentait, la cité ne devait pas croître en taille, mais fonder d'autres cités. Alors on continue un petit peu plus loin cet article, je tourne la page. Il y a un paradoxe qui donne à penser. Depuis deux siècles, un activisme inouï a été déployé pour transformer le monde et le rendre plus conforme aux attentes de l'être humain. Et aujourd'hui, c'est l'être humain qui est sans cesse sommé de s'adapter au monde tel qu'il va. Quand on cherche les raisons de cette inadaptation croissante de l'homme à un monde qui aurait dû lui être de mieux en mieux adapté, je pense que la cécité aux questions de taille est l'une des clés. Pour résoudre tel ou tel problème, on met en œuvre d'énormes moyens sans se rendre compte que cette énormité même pose problème. C'est ainsi que, passé certains seuils, la technique ne nous libère pas, elle nous écrase. Il nous dit aussi « Un couple d'étonnants s'est créé entre le libéralisme et la technique. La technique ne cesse de fournir au libéralisme des moyens de se répandre et le libéralisme en appelle sans cesse à la technique pour pouvoir s'exprimer pleinement. » Et enfin, il termine cet article en parlant de la notion de décroissance. Les adversaires de la décroissance critiquent ce qu'il y aurait en elle de négatif. Ils ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre que la valeur d'une attitude, son caractère positif ou négatif, est souvent une question de mesure et d'opportunité. Dans le monde hypertrophié, boursouflé qui est le nôtre, c'est la décroissance qui est positive et la croissance négative. C'est la décroissance qui est action et la croissance résignation. L'idée de croissance, ne procède pas de l'idolâtrie du petit ou du primitif, mais de l'amour du proportionné. Voilà les propos d'Olivier Ray à propos de son ouvrage Une question de taille. Donc il y a vraiment cette notion de proportionnalité qui est vraiment central dans cet ouvrage, dans lequel donc Olivier s'attache à nous décrire, à nous faire comprendre par quelle voie, au cours des derniers siècles, nous avons perdu la mesure. Mais il s'attache aussi à déterminer ce sur quoi nous pourrions nous fonder pour la retrouver, afin de mener une vie authentiquement humaine. Donc retrouver ce qu'on pourrait appeler l'échelle humaine. Et juste pour terminer cette chronique, je vous donne la dernière phrase du livre à méditer. Dernière phrase de ce livre à méditer. L'avenir, s'il y en a un, nous sera donné par surcroît. Voilà, c'était l'ouvrage « Une question de taille » de Olivier Rey, paru aux éditions Stock, que je vous conseille fortement. Et je vous retrouve pour une prochaine chronique. À très bientôt, au revoir.
Et voilà, le marque-page est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission le lundi soir à 21h en semaine paire et le samedi matin à 11h en semaine impaire ou sur le www.radiobartas.net. Salut à tous !